RMC.
PLM, tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
RMC, football show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, bien sûr l'after après cette soirée d'Europa League, l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Nous sommes sur RMC, nous sommes sur RMC Sport News comme tous les soirs, et Jérôme Rotten est là. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Daniel Riolo, bonsoir.
Salut les amis.
Les gars, Rennes qualifié, bonne nouvelle. Rennes a battu Astana 2-0. Bordeaux éliminé malgré sa victoire à Copenhague 1-0. Mais le Zénith n'a pas fait le boulot pour les Bordelais. Le Slavia Prague a gagné face au Zénith 2-0. Et puis Marseille, déjà éliminé avant cette soirée, a perdu au Vélodrome face à Limassol 3-1. On fera un point un peu plus tard sur les qualifiés. Il y a quelques gros clubs hein, en Europa League. Tiens, je vous les donne. Les gros clubs, hein, pas tous. Chelsea, par exemple, en Europa League. Séville, en Europa League. Qu'est-ce que j'ai encore là? Lazio, Villarreal. Arsenal qualifié, le Sporting Portugal, le Betis Séville, voilà autant de clubs.
T'as même pas cité les reversés.
Et j'ai pas cité les reversés de la Ligue des Champions.
C'est souvent là qu'il y a du lourd. Hein.
Et ouais. Exactement.
Il y a qui comme reversé?
Bah là, je les ai pas en tête.
Il les a pas calculés. Hein.
Ouais. Donc merci du piège, ça fait plaisir.
Bah ouais.
En tout cas, en Europa League,
il y a un beau tableau.
C'est vrai que quel piège? C'est pas un piège, je pensais.
En général, c'est ceux qui viennent de la Ligue des Champions.
Je pensais que tu les avais parce que, comme t'étais le roi des poules à chaque fois, je pensais que t'avais même fait toutes les probabilités.
Le Shakhtar.
Il me faut juste quelques instants pour que je vous les lise.
Le Shakhtar, l'Inter.
L'Inter, reversé.
Voilà.
Naples, reversé.
Voilà.
Galatasaray, Benfica.
Voilà.
Le Shakhtar.
Voilà.
Valence.
Voilà.
Et l'épouvantail européen, le FC Bruges.
Voilà. Donc ça fait du lourd.
Il t'en manque, hein, t'en as dit
ouais,
que 6.
Donc on peut le dire, sans crainte, Rennes n'ira pas au bout malheureusement. Mais le 16e de finale, c'est déjà beau.
Les 3 points de débat de l'after ce soir, c'est parti, jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Jérôme, tes 3 points de débat, on t'écoute.
Alors le premier, j'ai mis Rennes assumé, assure. Classique hein, et il nous sauve les soirées du jeudi. Alors, soir
au moins deux soirées aller-retour
ouais. Bordeaux que de regrets parce que quand tu les vois c'est cohérent ce qu'ils font depuis plusieurs semaines mais moi je leur en veux, c'est l'entame de cette compétition qui est vraiment pas bonne et les deux premiers matchs où ils passent complètement à côté et il faut respecter cette compétition si tu veux te qualifier. Et Marseille, à part le sentiment de honte parce qu'il représente le foot français, j'ai mis touché coulé parce que franchement coulé contre Limassol à domicile. Je te le disais tout à l'heure, je pense que dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, perdre contre une équipe aussi faible. Du moins, un nom aussi faible.
Toi, tu nous l'avais dit. Tu avais dit que c'était une équipe dont il fallait se méfier. C'était une belle équipe.
Ouais, mais je pensais pas à ce point-là.
Daniel, tes 3 points.
Donc Bordeaux pour du beurre et oui des regrets mais non pas en fait c'est plus un gâchis quoi parce que Bordeaux n'a pas la marge pour se permettre de démarrer l'Europa League en cours de route donc finalement l'élimination elle est méritée parce que c'est tous les matchs que tu dois jouer et pas te réveiller à la fin. Maintenant à la décharge des Bordelais, c'est vrai que le début de saison a été marqué par beaucoup de choses. D'abord démarrer avec un entraîneur, puis un autre, changement d'actionnaire. Bon, peut-être, ok. Enfin, toujours est-il que c'est un énorme gâchis. Rennes, bah c'est comme prévu, Rennes. Hein. Franchement, je suis très content. Ok, pour eux, c'est historique, c'est génial et tout. Ah, il était absolument dingue de pas se qualifier contre Astana. Et le troisième point, c'est l'OM absolument ridicule.
Mes 3 points à moi, j'ai mis Rennes enfin, parce que Rennes quand même c'est les rois de la loose, les finales de coupe, la Ligue des Champions qui s'échappe dans les dernières minutes du championnat, là ils ont enfin réussi à faire un truc bien.
Ils ont rien gagné non plus,
bravo. Enfin, mais et à l'échelle de Rennes c'est bien. Pardon.
Oui, non, mais à l'échelle du, excuse-moi, mais Daniel il te le dit.
D'ailleurs, mon deuxième point est une doublette, la doublette Stéphane Sarr. Excellent début de Stéphane comme entraîneur de Rennes, 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. Et puis Sarr, mine de rien, qui met 2 buts ce soir dans un but
somptueux. Sarr, de toute façon, je pense qu'il ne sait mettre que des super buts.
Les buts simples.
Et puis c'est plus simple de le mettre à
son
troisième vrai
point, moi t'as mis OM ridicule, moi j'ai mis OM grotesque. On y reviendra tout à l'heure. On a reçu beaucoup d'appels des supporters marseillais ce soir. Attention messieurs dames.
Mais en même temps, comme prévu, c'est de la faute de l'arbitre. Hein. Oui. Ah bah Rudy Garcia l'a dit, il a quand même de la faute de l'arbitre.
On a un invité avec nous. Il est allé voir la petite sirène aujourd'hui.
Oh là, l'homme du froid.
Dans le port de Copenhague. Et lui aussi est congelé, comme il aurait dit Méco hier. Pierre Ducrot est avec nous. Salut Pierre.
Bonsoir messieurs.
Salut Pierre.
Elle est toute petite hein, la petite sirène. Hein.
Ah tu l'as vu, ouais, elle est petite. Hein.
Elle est très loin. Elle est très loin dans Copenhague. Et elle est toute petite en arrivant.
Ah, t'as été déçu d'aller la voir en fait. Hein, donc tu t'es dit, j'aurais dû rester au chaud.
Bon, il faisait froid.
T'étais au match ce soir et avant le match, tu croyais dur comme fer. Oui. Tu nous as dit avant le match, vous allez voir. Ça va le faire. Ah bah, le Zénith va gagner.
Ça va le faire de quoi? Le Zénith, ils allaient gagner au Slavia?
Mais il est fou, quoi. Mais bon, c'est pas
ça. Ça aurait pu, tout à fait. Après, ça l'a pas fait. Les Bordelais ont fait le boulot, au moins.
C'est vrai.
Mais le Zénith ne l'a pas fait de son côté.
C'est pas le Zénith qui l'a pas fait. C'est le Slavia qui l'a fait en faisant un super match en gagnant. Excuse-moi.
Alors, j'ai pas vu le match, Daniel, donc je vais pas en parler, mais sur le résultat, effectivement.
Bon match, voilà, ils devaient gagner, le Slavia, tu vas pas leur reprocher d'avoir gagné.
Qu'est-ce que tu retiens du match de Bordeaux, là, du coup, toi?
Ouais, parlons du match de Bordeaux plutôt, parce que c'est celui que j'ai vu d'ici. C'est pas le meilleur match de Bordeaux de ces deux derniers mois. Honnêtement, il y a eu des matchs avec un meilleur contenu où les Bordelais n'ont pas été récompensés toujours par les points et notamment en Europa League. Et c'est ces matchs-là qui sont très frustrants pour les Bordelais finalement. Ce soir, les Bordelais s'en sortent bien. Ils ont une occasion et demie et dont une très bien jouée avec Caramo qui fait la différence et Briand qui finit très bien. Voilà, ça a suffi pour que les Bordelais sortent vainqueurs, prennent 3 points et finalement on ressort très frustré de ne pas en avoir pris 2 de plus contre un Zénith au Zénith. Vous avez fait un bon match mais vous avez été plombé par une erreur individuelle ou peut-être même à la maison ensuite contre ce même Zénith.
L'homme du match pour toi Pierre?
L'homme du match, compliqué d'en ressortir un. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Pablo qui a été très solide derrière et encore très plein de maîtrise.
Ouais, on l'aime bien toujours.
Après, peut-être l'entrée de Caramo parce qu'il a fait la différence. On le sentait de toute manière ce trio qui a été aligné par Eric Bédoué et Ricardo en première période. On sentait que ces trois profils de Préville, Briand et Cornelius pouvaient pas être associés parce que ça manquait clairement de vitesse sur les côtés, ça manquait de percussion, ça manquait même de dribble. C'était trois profils qui pour moi ne sont pas complémentaires, c'est pas question de cracher sur l'un ou l'autre, mais ensemble ça ne marchait pas. Et dès que Caramo et Camano sont rentrés, on a eu plus de percussions, on a eu plus de vitesse, on a eu un Jimmy Briand qui a été plus souvent touché aussi devant dans l'axe. Ça a fait la différence.
Merci Pierre. On va vite te mettre en chaud.
Merci
parce que
à vous,
rouge là.
Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais.
T'as un peu de bave sur la barbe.
Salut Pierre. Bonne soirée, à très vite dans l'after.
Ça c'est de la barbe blanche.
Tu seras de retour ce week-end bien sûr dans l'after.
Non mais c'est incroyable ce que dit Pierre. Mais moi je suis assez d'accord sur son analyse de match, mais. Quand même, il te dit le profil des trois, ces trois devant ne peuvent pas jouer ensemble. Alors qu'est-ce que foutent Bédoué et Ricardo? Si ils jouent un match important d'Europa League, parce qu'il fallait les s'imposer, alors ça leur donne raison, parce qu'ils marquent en fin de match grâce à la rentrée de Caramo qui anime le côté, et ça me paraît logique, avec un Briand qui retrouve un poste d'axe. Mais avant le coup, et on en a parlé, pour aller arracher une qualif, mais ça a été un peu l'état d'esprit des Bordelais sur le début de la compétition, et c'est pour ça qu'ils passent à côté. Et je suis d'accord avec Daniel, moi j'ai dit des regrets, parce que quand tu les vois jouer comme ça, un match sérieux, bien sûr qu'ils sont au-dessus de Copenhague, et la défaite à domicile contre Copenhague, elle est inadmissible. Bien sûr qu'au Slavia, ils pouvaient montrer autre chose, même s'ils perdent au Slavia à l'arrivée, c'est pas facile d'aller jouer en République tchèque, mais il y a des façons de perdre et d'aborder cette compétition, et Bordeaux, à l'image de l'équipe qui a été mise en place ce soir, n'a pas assez respecté l'Europa League.
Et tout, voilà, ça, c'est ça. Tous les ans, on a ce genre d'histoire-là avec des équipes qui regrettent, qui se disent « Ouais, on était quand même dans un groupe à notre portée, ouais. On aurait dû faire mieux. » C'est toujours comme si soit on se réveille trop tard, soit on oublie qu'il y a 6 matchs à jouer, soit « Bah oui, mais quand on a fait ce match-là, on avait eu les occasions et là, on les a pas fait. » J'ai toujours l'impression qu'on arrive avec une sorte de complexe de supériorité dans cette compète. Or, non! À chaque fois qu'il y a des équipes Slavia, bon, dans une autre mesure Limassol, mais au début de l'aventure, avant que tout ne s'écroule pour l'OM, l'OM n'était pas allé gagner là-bas, et Limassol avait déjà fait des misères à Nice il y a 2 ans, je crois. Je sais pas, c'est toujours la même chose. On en revient à l'avis que j'avais fait pas jeudi dernier, l'année. Ce manque d'envie permanente, c'est toujours. un moment dans la réaction, bon bah ok, l'équipe française va se dire ah bah oui mais là c'est vrai, il faut que je fasse le match et je le fais quoi. Rennes ça c'est passé parce qu'ils se sont retrouvés dans le dernier match à domicile contre Astana, il faut qu'on gagne, on se qualifie.
Mais normalement ils doivent passer à la trappe aussi.
Mais c'est
un concours de circonstances.
Mais c'est, hein, c'est limite hein, Rennes. Hein.
Bah de toute façon c'est limite hein. C'est le résultat d'Astana qui perd à domicile sur l'avant-dernier match qui permet à Rennes de jouer une finale.
Donc, mais sinon eux finalement ils ont eu un peu le coup de bol de pouvoir retomber sur le truc, mais sinon pareil aussi ils pouvaient la salade de regret.
Alors, on
et ça plein d'équipes l'ont eu sur ces dernières années. Ce truc, à un moment, il va falloir quand même se décider à être bon de début à la fin et vouloir aller plus loin. En fait, Daniel... Parce que comme je disais, c'est pas forcément une affaire foncièrement de qualité de nos joueurs. C'est mentalement.
Non, c'est un état d'esprit.
Voilà.
Mais c'est un état d'esprit. Mais là, je te rejoins. Et c'est pas les joueurs. C'est l'ambiance dans les clubs. C'est comment ils abordent cette compétition. Comment ils doivent la respecter. Et surtout essayer d'en faire une priorité aussi. Et arrêter de ne parler de gestion quand il y a un match d'Europa League et que trois jours après tu joues en championnat et que après il y a la Coupe de la Ligue qui rentre. Il y a toujours de la gestion dans la tête des actionnaires, du président des clubs. Ou du staff.
Surtout dans la tête des coachs.
Oui, mais dans la tête des coachs.
Ils arrivent à retourner le cerveau de tout le monde.
Moi, je vais dire. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi parce que moi, je l'ai vécu. Et ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, dans certains clubs, quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco, allez, je vais mettre Marseille parce que Marseille, c'est des équipes qui sont formées et qui espèrent jouer avec des champions. Donc que t'aies une petite déception de jouer l'Europa League et qu'il y ait de la gestion dans cette compétition, parce que l'appétit vient en mangeant. Hein. L'année dernière, qui aurait imaginé Marseille en finale d'Europa League après les matchs de poule ? Personne. Franchement, personne. Et à force de se faire des matchs où tu vois que le calendrier est favorable, du moins le tirage est favorable, ils passent les 16e, les 8e, les quarts, et puis après ils se disent « bah maintenant c'est un objectif d'aller au bout ». Mais quand tu t'appelles ces quatre équipes-là seulement, mais quand tu t'appelles Rennes, Bordeaux, ou même d'autres hein, par le passé qui ont fait l'Europa League, mais putain, mais c'est une aubaine de jouer l'Europa League, des matchs de Coupe d'Europe.
Bien sûr,
donc
c'est
il faut
super,
la respecter,
c'est
il faut
super
que ça soit une priorité.
Les gens adorent ça, les gens adorent venir au stade là,
mais
dans
vrai.
Les matchs de semaine pour voir, pour vibrer.
Parce que je dis bravo.
Parce que les matchs couperaient comme ça, parce que ce soir c'en était finalement, ces matchs où t'avais le suspense. Mais à chaque fois, c'est comme si, pour avoir ces matchs-là, pour les mériter. Ouais, ok, les deux premiers, faut te faire chier, aller dans des endroits
sûr.
À la con, où t'as l'impression que c'est des matchs en bois, parce que le stade est à moitié vide, parce que, ok, bouffe-le ce match-là, bouffe les deux, trois matchs pourris, parce que les deux derniers, bah, ça se trouve, ça va être super, et puis quand tu vas te retrouver à passer l'hiver, Noël, là, et que t'auras les matchs aller-retour, ça va faire plaisir à tout le monde, le public va être content, toi, t'augmenteras la valeur de ton club, la valeur des joueurs, pour ceux que ça botte de penser tout de suite à se barrer à l'étranger. Voilà, mais ça ne pourra être que bénéfique à tout le monde.
Et pour rejoindre Daniel là-dessus, et même dans l'état d'esprit des dirigeants, des entraîneurs, au bout d'un moment, rendez-vous compte, Bordeaux, on parle des deux premiers matchs qui ont été trop gérés, où ils sont passés à côté, ça leur coûte la qualif. Les autres matchs, franchement, ils étaient pas dans la gestion parce qu'il y avait du retard, ils étaient dos au mur, ils se sont dit, oh bon, bah, écoute, on va essayer de faire des résultats pour essayer de croire à une éventuelle qualif sur le dernier match. Ça a été le cas. Et à l'arrivée en championnat, c'est peut-être leur meilleure période en termes de jeu. Ça crée une dynamique. Rennes, c'est la même chose. Rennes, ça fait deux matchs qu'ils gagnent. Comme par hasard, ils sont encore au rendez-vous là avec un changement d'entraîneur, certes, mais ça crée une dynamique. Et quand tu perds en Europa League ou que tu fais trop tourner, je peux te dire que ça te coupe plus les pattes qu'autre chose pour les joueurs titulaires. Et à l'arrivée en championnat, tu regardes à chaque fois les équipes qui ont géré le match d'Europa League ou de Ligue des Champions, parce que ça arrive même en Ligue des Champions d'un moment, hein, donc il faut pas se voiler la face. Et ben, le week-end en championnat, ils sont loin d'être au top.
Oui, Rennes, c'est la fête ce soir, là, ils se tapent un clapping avec les supporters, ils sont contents.
Mbaye Niang avec son chapeau de Père Noël.
Tu passes les fêtes, t'es en confiance.
Puis t'as la carotte du mois de février.
Voilà. Alors les gars, je rappelle que le grand jeu de Noël est parti pour l'after également ce soir. Vous envoyez Noël par SMS au 732-16. On a encore plein de cadeaux. On a des tablettes, on a des voyages à vous faire gagner, on a des téléphones portables, on a encore des ordinateurs, des drones. Bref, vous envoyez Noël par SMS au 732-16. Vous avez jusqu'à minuit, tentez votre chance. Élie est avec nous, supporter bordelais. Salut Élie.
Bonsoir messieurs.
Salut Élie.
Bon, qu'est-ce que tu retiens de l'Europa League cette année, toi?
T'es Libo?
Déjà, ouais, tu me l'as fait souvent, Daniel, c'est là. Déjà, je suis pas trop d'accord avec Jérôme, hein, parce que il dit un peu, j'aime beaucoup Jérôme, j'aurais bien aimé qu'il joue à Bordeaux à une certaine époque, mais il dit un peu des saucisses. Parce que Bordeaux, oui, parce que en fait, voilà, c'est compliqué. Bordeaux, c'est une année particulière. Alors Bordeaux, elle a joué quand même à fond tous ses matchs. Ça, on peut pas le cacher. On
ah bon dire. Non, mais t'as. Non, mais franchement, non, mais arrête, arrête.
On va voir, finir.
Non, mais ne dis pas qu'ils ont joué à fond. Déjà, rien que le premier à Prague, c'est pas possible.
Laisse-moi finir.
Laisse-moi finir. Parce que c'est une année particulière. Il y a eu un l'actionnaire a changé, le club a été en vente. Le club a récupéré 50 millions d'euros, ils ont investi à peine 10 millions d'euros, donc ils n'avaient pas une équipe vraiment bâtie pour jouer l'Europa League. Ils ont beaucoup de jeunes dans l'équipe. Et si tu te rappelles bien, le match contre le Zénith Saint-Pétersbourg, Bordeaux le perd parce que Jules Koundé, qui a 20 ans, qui est un très bon joueur, le perd au milieu.
Ouais, il fait une énorme boulette.
Il se prend son rond central et se prend un but sur un contre. Contre Copenhague, le but qu'on se prend, le deuxième but contre Copenhague, c'est sur une touche à la dernière minute. Il y avait qui au milieu de terrain? Il y avait Tchouaméni qui était même pas au marquage.
Oui, mais en fait, que tu dises ça, ok, on se souvient des faits, mais en quoi est-ce que ça contredit ce que dit Jérôme?
On peut pas tout avoir. Non, non, parce que, c'est-à-dire que Bordeaux, c'est pas que Bordeaux n'a pas respecté, c'est-à-dire qu'il y avait des circonstances à des nuances. Si on voit bien la phase de poule, on voit bien que Bordeaux est en phase d'évolution.
Mais Élie, les circonstances atténuantes, elles prennent un peu de valeur. Je comprends ce que tu veux dire, mais elles prennent un peu de valeur si tes adversaires sont vraiment, tu vois, tu tombais contre un club espagnol, machin, bon, tu vois. Là, le groupe, je suis désolé, même avec une boulette, même avec ceci, tu vois, voilà quoi, Slavia, je... Copenhague quand même quoi. Moi, à la limite le Zénith, on va le garder, on va dire c'est le monstre du groupe, si tu veux, c'est le monstre du groupe. Mais Slavia, si tu commences à chercher des excuses alors que t'as joué Slavia et que t'as joué Copenhague, excuse-moi, ça fait un peu petit, Élie, tu vois.
C'est pas des excuses, je veux pas dire.
Un peu quand même.
On veut pas dire qu'on a pas respecté la coupe parce qu'ils ont joué à fond tous les matchs. Mais après, un exemple, c'est Caramo. Caramo aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de Bordeaux. Ça, on va pas nier. Mais Caramo, il est venu en fin de mercato, il est monté en puissance et c'est partir de maintenant qu'il monte en puissance depuis 2-3 semaines. C'est-à-dire qu'il n'y était pas, même lui, dans les premiers matchs d'Europa League, il n'y était pas. C'est-à-dire que l'équipe, elle a eu une évolution, elle a connu une maturité avec aussi l'arrivée de Ricardo, où on voit que défensivement c'est un peu plus solide, tactiquement c'est un peu plus solide. Donc on sent quand même qu'il y a quand même une évolution, un peu tardivement.
Élie, je te rejoins si tu veux, et c'est ce qu'on dit sur le déplacement à Saint-Pétersbourg. Où ils font un match cohérent et tu sens qu'il y a, ils ont pris conscience de cette compétition. Mais franchement, me dire que au Slavia de Prague avec l'équipe, là je l'ai sous les yeux.
Aussi,
ils ont respecté la compétition, mais franchement, alors là,
je vais te dire,
tu me parles de Copenhague où ils perdent, c'est vrai, la dernière seconde, ou sur une erreur, où oui, ils font un match cohérent et t'as l'impression qu'ils peuvent le gagner, mais franchement, si tu respectes à fond cette compétition, surtout après ce mauvais match à Prague, tu crois que Bordeaux, même avec des faits de jeu contraires, ils perdent à domicile contre Copenhague. Faut pas déconner quand même. Tu peux pas l'accepter juste sur le fait de dire. J'ai l'impression que quand je t'écoute, c'était Bédoué après le match de Copenhague. Il était en train de me dire et de nous dire, c'est une défaite encourageante. Mais quelle défaite est encourageante quand tu perds un deuxième match?
Laisse les défaites encourageantes au rugby.
Mais non, mais exactement. Mais moi, je suis désolé quand tu t'appelles Bordeaux. Qui a un nom qui ronfle dans le foot, alors peut-être que c'est pas la même équipe qu'il y a quelques années, on est d'accord. Peut-être qu'il y a des circonstances par rapport aux actionnaires qui changent. Il y avait le bordel, ok. Qu'ils ont un effectif qui est jeune, ok. Mais franchement, Bordeaux avec cet effectif, là, tu perds à domicile contre Copenhague.
Elles ont des
arrêtez vos
de
bêtises.
Quoi
franchement, c'est que la compétition, ils l'ont pas respecté. La preuve, aujourd'hui, sur un match où ils doivent aller s'imposer, ils font pas le meilleur match. Mais même en faisant un match très moyen, ils arrivent à gagner à Copenhague. Alors écoute, moi je te dis qu'ils l'ont pas respecté d'entrée.
Était passé par les tours préliminaires et tout, rappelez-vous, pendant l'été, là, les Venskins et compagnie, par ailleurs.
Ouais, ça ajoute un peu au gâchis, c'est que tu as passé l'été à te qualifier.
Élie, merci en tout cas.
De rien.
Et puis,
à bientôt.
Salut, bye bye. Juste un mot sur le bilan français quand même. 3 clubs sur 6. Est-ce qu'on estime que, on va dire que c'est moyen évidemment, 3 clubs sur 6.
Ouais, mais c'est quasiment inespéré par rapport au premier match. Hein.
Écoute, c'est même presque bien. Alors, on va essayer d'analyser. Bon, Paris, groupe difficile, ça sort, c'est bien. Lyon s'en sort, c'est très bien. Monaco,
Rennes, il y a 3 semaines, c'était inespéré.
Non, mais les déceptions, pour être très clair.
Très franchement, tu sais que tu pouvais faire, à part Monaco, qui était, on va dire, à la cave avec tout ce qui s'est passé, et on va considérer que le groupe, avec Dortmund, Atletico, t'avais du mal à,
oui, mais
même
bon,
si t'avais été bon, t'en sortais. Mais à la limite, tu finissais en UEFA quand même.
Ouais, exactement.
Tu finissais en UEFA. Pour le reste, tu pouvais passer toutes tes équipes. Normalement, tu dois passer toutes tes équipes.
La logique, elle est là. Mmh. Mais de toute façon, c'est simple.
Tu dois passer toutes tes équipes.
Au niveau du tirage.
Et Marseille termine avec
Non, mais au niveau du tirage,
franchement, on va en parler, mais là, c'est
Rennes qui est dans le moins bon chapeau, on est d'accord.
Bah oui, oui.
Donc c'est Rennes qui est le seul qualifié, parce que Marseille dans le chapeau en Europa League, dans le chapeau numéro 1, il sortait de la finale, non?
Oui, Marseille ça doit sortir.
Bordeaux, c'est la même chose par rapport à l'histoire européenne, ça doit sortir aussi. Monaco, je suis d'accord avec Daniel. Monaco, c'est embêtant par rapport au groupe, parce que franchement sortir devant l'Atlético et Dortmund, c'est dur.
En Bruges et finir en UEFA, parce que
voilà. Et encore par rapport à la tournure des événements, tu te dis, et l'ambition de Dortmund qui est une ambition pareille, changement d'entraîneur avec une équipe qui est jeune, bah tu y avait peut-être match pour se qualifier en Ligue des Champions.
Oui, mais à Monaco il y a deux ans alors.
Pas
cette année.
Non mais d'accord. Oui. Mais moi je m'attendais pour Monaco, c'est pour ça que pour moi c'est une grosse déception aussi du côté de Monaco et de Marseille, c'est que pour le foot français, leur prestation, c'est honteux. Marquer un point, les deux, parce que Monaco, c'est un point, je crois. Oui, ils ont fait nul à Bruges, et encore tiré par
Monaco,
les cheveux.
Monaco, j'ai arrêté de les suivre après le deuxième match. Et on avait le sentiment que c'était mort de chez
moi. Un point sur les matchs de poule, c'est scandaleux, quand tu t'appelles Monaco et Marseille.
Rennes bat Astana 2-0, donc on va y revenir dans quelques instants. Bordeaux gagne à Copenhague mais éliminé. Marseille perd face à Limassol 3-1. Là aussi, on va en reparler, bien sûr. N'oubliez pas le grand jeu de Noël. Vous vous inscrivez, vous envoyez Noël par SMS au 732-16. On vous attend nombreux dans l'after qui revient tout de suite sur RMC et sur RMC Sport News. À tout de suite.
RMC Football Show. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là, avec vous, avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten, le 32-16, bien sûr. Et tout dire, on vous attend. On vous attend aussi sur Direct Studio, où on a pas mal de réactions de supporters marseillais. On va arriver, sur l'OM dans quelques minutes. Mais d'abord, Rennes, au programme. Avant d'accueillir Inès, au 32-16, écoutez Julien Stéphan, qui s'exprime tout à l'heure et qui parle notamment de ce qui est arrivé entre Rennes, Monaco. Il a failli partir, il est resté.
Donc,
il est
heureux. Julien Stéphan, il s'est fait un petit look, hein. Ouais, mais... Normalement, l'adjoint, quand il arrive comme ça, c'est limite, il a le survêt et la parka, discret et tout. Lui, discret, bim, immédiatement, la veste, la chemise, là.
La nouvelle génération, monsieur.
Non. On va se demander s'il avait pas préparé. Tu sais, ça faisait 3 semaines, il se regardait dans la glace. Bon, alors quand je vais être nommé coach.
Ouais. Et bon.
On l'écoute, en tout cas.
Moi, j'ai pas nié le fait qu'il y ait une approche de Monaco, c'est vrai. Après, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que j'aille là-bas. Ça s'appelle le destin, voilà. Et mon destin, c'était de rester à Rennes. J'ai pas eu du tout de frustration. Rennes, c'est mon club de cœur. C'est un club auquel je suis viscéralement attaché. J'aime les valeurs de ce club-là, j'aime les couleurs de ce club-là, j'aime la mentalité de ce club-là. Donc ça n'a pas été du tout une frustration, ça n'a pas été difficile du tout de repartir. Et puis il s'est présenté à moi un challenge qui n'était pas du tout prévu. Et lorsque le président m'a proposé le poste, j'ai pas réfléchi longtemps parce que ce club me tient tellement à cœur que j'ai souhaité répondre au défi. Voilà, on en est qu'au tout début, ça fonctionne bien pour l'instant, il faut en profiter, il faut savourer, mais le chemin est encore très très long.
Je te dis, on a l'impression qu'il était prêt.
Trois matchs. Il était
prêt dans les habits, dans la façon de parler, il est fait, on a l'impression qu'il est fait, j'ai rarement vu un adjoint prendre en route
c'est vrai.
Et être à ce point à l'aise.
Ouais, exact. 3 matchs, 3 victoires, 6 buts marqués, 0 encaissé.
J'ai l'impression qu'il avait, tu sais, répété à la maison.
Mais c'est
bilan parfait.
Attends chérie, je mets le costume. Alors quand je serai entraîneur, je dirai ça, c'est bien.
Mais vu son implantation de cheveux, je pense que dans 2 mois, avec la pression, les trucs, il aura plus de cheveux.
Ah bah si.
Il va être dégardé.
Moi je le trouve à l'aise. Mais
si
je le trouve à l'aise.
À mon avis, il tient de son père.
En général, c'est comme ça que ça marche.
Non, mais blague à part, c'est vrai. Non, mais je rejoins Daniel. C'est vrai que t'as l'impression qu'il est, il s'est tout de suite mis dans cette position. Il est à l'aise. Moi, je trouve que. Alors bon, on a toujours les mêmes entraîneurs qui tournent et c'est vrai que c'est un vent de fraîcheur parce qu'il apporte autre chose. Dans sa gestuelle sur le terrain, j'aime et j'aurais aimé être sur le terrain, avoir un coach comme ça. Alors j'en ai eu des coachs qui te donnent cette sérénité là, mais je pense que c'est avant tout ce qu'il a amené. Non, lui il est trop dans l'excitation.
Ah bon ?
Ouais, la moustache elle bougeait un petit peu trop là, tu vois, des fois c'était énervant. Mais non.
Il a également été à Rennes, n'oublions pas.
C'est vrai. Tiens, on a Inès au 32-16 qui est supportrice rennaise. Bonsoir Inès.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme.
Salut Inès.
Inès, tu étais au stade ?
Non, j'y étais pas cette fois-ci, j'étais au stade pour les défaites, comme d'habitude.
C'est toi la guignarde en fait.
Ouais, je sais, ouais, c'est vrai en plus. Ouais.
Ah bah n'y va plus, aucun Rennais va te voir au stade si t'as la guigne.
Non, j'y vais plus.
Non, mais il y a quand même un truc psychologique. je sais pas ce que t'en penses, Inès. Parce que Rennes, c'est toujours le truc, la lose à la fin. Finale de coupe, la Ligue des Champions qui, que tu joues pas dans la dernière minute contre Lille et tout. Et là, il y a enfin un truc bien, quoi. C'est super.
Ouais, c'est exactement ça. J'ai senti la lose venir. Première mi-temps, je me suis dit, non, mais c'est bon, c'est Rennes. Allez, on va se prendre un but à la dernière où on va rien se prendre du tout. On va rester 0-0, voilà. Et puis le pénalty arrive, je me suis dit, non, mais on va pas le marquer. Voilà.
Ah oui, toi, t'as quand même sacrément la poisse, quoi. T'es pas le genre à y prendre.
D'ailleurs, tu remarqueras que vous l'avez pas marqué.
Et on ne l'a pas marqué. Et ça a débarqué, et puis voilà, quoi. Et après, je me suis dit, mais on va se prendre un but derrière, il y a 25 minutes à attendre. Et puis.
Ah ouais, t'es vraiment une vraie supportrice rennaise, toi.
Bah ouais, bah oui.
Le traumatisme total.
Exactement, ouais. Ouais, ouais. Mais finalement, bah voilà, on savoure, nous aussi. Donc, comme notre entraîneur, on savoure pour l'instant, on prend tout ce qu'il y a de bon à prendre, parce qu'on ne sait pas quand ça peut s'arrêter, on sait que ça peut s'arrêter très très vite. Donc, on prend tout, quoi. On prend absolument tout, quoi.
Est-ce que Sarr est le nouveau Dembélé ?
Non. Non, Sarr n'est pas le nouveau Dembélé.
Bah, Dembélé, il a fait quoi à Rennes ?
Bon, quelques trucs quand même.
Bah, excuse-moi, Sarr.
C'est mieux que Dembélé ?
Bah, mais on s'en fout. Dembélé, il est plus là. Et Sarr, il est là dans la seule année où Rennes sort de la phase de poule et il met deux buts.
Il lui ressemble un peu à Dembélé.
Il met deux buts dans cette campagne européenne qui sont énormissimes, des vrais buts de Coupe d'Europe.
Mais qu'est-ce qui lui ressemble ?
Sarr, c'est bon, Dembélé, c'est fini. Il a rien fait à Rennes, Dembélé.
À part la couleur de peau, c'est tout. Franchement, il faut arrêter les bêtises.
Il n'y a pas la même.
Dembélé a fait une demi-saison magnifique.
Non mais Dembélé, le style Dembélé, c'est quand même pas le style Sarr. Il joue peut-être dans la même position, mais c'est deux joueurs totalement différents. Lui, c'est un joueur de vitesse, c'est un joueur, il lui faut de l'espace devant, et c'est vrai que en plus de ça, il arrive aujourd'hui à être un finisseur, à marquer des top buts. Ça.
Oui, parce que Dembélé, t'es un joueur de lenteur, alors.
Non, Dembélé,
c'est
un dribbleur, c'est autre chose. C'est Dembélé, ça ressemble, après, c'est deux, ça ressemble à Ben Arfa, ils prennent le ballon, ils ont envie de dribbler. Ils ont pas envie de faire.
Je trouve que, même sur l'année dernière et sur le début de cette saison, j'ai le sentiment qu'il avait pas complètement un statut de titulaire. Comment dire ça? C'était pas complètement acquis, quoi, tu vois?
Inès, je vais prendre la parole.
Alors oui, juste pour terminer ma phrase, si c'est possible. Non, c'est pas la même chose, parce qu'effectivement, Dembélé, c'est sur peu de temps qu'il a quand même été efficace. Effectivement, ce sont pas les mêmes joueurs. Sarr, ça prend du temps, il y a encore des maladresses, il y a des belles choses. Mais voilà, au niveau du temps et de l'efficacité, on n'est pas... Donc pour répondre, non, c'est pas la même chose. Mais effectivement, ce sont pas les mêmes joueurs, mais il est encore très maladroit.
Mais c'est vrai.
Regardez tous les matchs de Rennes, mais il est encore maladroit.
T'as raison de le dire, et moi je voulais finir comme ça. Il y a de la maladresse chez Sarr. C'est vrai que c'est pour ça que ces deux styles, Dembélé, il sent le foot. Du moins, il a les pieds pour jouer au football. Tu vois, techniquement, tu peux rien lui apprendre. Après, le QI foot, il peut s'améliorer sur plein de choses. Sarr, lui, je pense qu'il arrive à être des fois collectif et à finir tout seul, mais en effet, dans la dernière passe ou dans le dernier geste, même s'il marque des top buts, il y a des progrès à faire. Et je suis pas certain, franchement, je suis pas certain qu'il arrive à atteindre un niveau d'excellence de ce côté-là.
Mais puisque tout le monde termine les phrases commencées 10 minutes plus tôt, donc je disais, il s'était pas installé complètement comme titulaire, Sarr. Et je trouve qu'il mériterait pourtant de l'être, parce qu'on a eu beau essayer d'autres solutions à Rennes, on a même recruté à son poste ou en attaque, et moi je trouve que quand il est là, sur ce qu'il montre, c'est vrai qu'il y a du déchet, mais je pense qu'il mérite d'être titulaire.
Ouais. Inès, un truc à rajouter ?
Non. Je suis contente d'avoir renoué avec l'Aster et puis voilà.
Et t'espères quoi comme affiche? T'as vu les équipes qui étaient qualifiées?
Oh, oui, j'ai vu, oui, bien sûr.
Et alors, tu voudrais un gros?
Ouais, franchement, je sais pas. J'ai peur d'un gros, mais en même temps, je me dis que de toute façon, si c'est la dernière phase de la coupe, pourquoi pas un Séville, pourquoi pas.
Bon, après, t'as des clubs prenables, hein. Tu dois un petit rapide de Vienne, par exemple.
En 16e, il faudrait un club prenable, là, quand il fait encore froid, que les matchs sont bavés, puis après,
ils ont fini deuxième, Rennes du groupe, là.
Ouais. Ouais, alors l'Europa League, c'est compliqué, mon vieux, hein, parce que l'Europa League, t'as,
ouais, c'est beaucoup
ça
plus
marche
dur,
en tête de série, en fait.
Ouais, c'est pas
grave. Le truc, c'est que quand tu es premier, t'es sûr de recevoir
donc
en retour.
Rennes
sera en déplacement au retour.
Mais oui, mais t'es en train de me parler des équipes qui vont être dans le même chapeau que Rennes.
Bah, c'est pas sûr.
Bah, si, les deux équipes,
ah oui,
tu viens me sortir.
Dire, Rennes sera pas tête de série. Bah, donc, t'es en train de nous dire que Rennes va forcément jouer un gros.
Ah, bah, oui, les équipes que tu viens de sortir.
Un demi-gros, à la limite.
Oui, un demi-gros.
Par exemple, Fenerbahçe, ils sont actuellement relégables dans le championnat turc. Là, ils se sont qualifiés.
Eh ben, c'est bien pour Rennes, ça, après.
Je sais pas, je pense à au hasard.
Ouais, puis il y a une belle ambiance, les joueurs vont se régaler.
Inès, merci en tout cas.
Merci à vous, bonne soirée.
Salut Inès.
Salut, à très bientôt. Salut. Pour reparler de Rennes.
On n'a pas parlé de Ben Arfa.
Vas-y, si tu veux en dire un mot.
Il y a eu évidemment, sur les dernières semaines, là, comme il s'est mis à remarquer avec le nouvel entraîneur. Immédiatement re-enflammate, parce que Ben Arfa, c'est toujours pareil, quoi. Dès qu'il fait un truc, c'est fou quand même. Ce joueur restera pour vraiment être celui qui provoque des enflammades démentielles, quoi. C'est vrai,
bah, vu le style du joueur, c'est normal.
Ouais, mais je sais pas à qui ça sert. Et en tout cas, je pense, moi, je continue de penser que ça lui aura fait énormément de mal dans sa carrière. Bref, pour ce soir, puisque les deux dernières semaines, tout le monde en parlait encore de nouveau, comme le Messi revenu sur Terre, bah, il a encore cette tendance à beaucoup jouer seul, à pas donner quand il faut donner bien. Alors peut-être que ça va venir, là, s'il reprend de la confiance et qu'il va peut-être jouer pour l'équipe. Là, ce soir, on a l'impression qu'il avait mis... vous inquiétez pas, c'est moi le sauveur. S'il faut qu'il se passe un truc, ce sera avec moi. Et il y a eu... pas mal de déchets quand même. Alors, effectivement, il peut toujours faire des trucs extraordinaires. Non, et mais... oui, je pense que maintenant il sera titulaire et que Stéphane a compris. Je pense que l'équipe de Rennes, ça va être celle qu'on a vue ce soir, grosso modo, avec Ben Arfa dans un 4-2-3-1 derrière l'attaquant. J'espère qu'il fera, mais si on pouvait un peu à chaque fois ne pas trop s'enflammer.
Non, mais ça serait, c'est l'histoire de sa vie,
ouais, l'histoire de sa vie, parce que ça lui a foutu la
tension.
Daniel, sur Ben Arfa, ce que je veux dire, c'est que souvent, et tu viens de le dire, il marque des buts sur des exploits individuels. Donc des exploits individuels, c'est ce qui marque le plus. Quand il prend le ballon, qu'il dribble un joueur, deux joueurs, qu'il te met une frappe de 25 mètres, comme il l'a fait deux fois de suite la semaine dernière. Donc c'est normal qu'on en parle. Après, moi, où je te rejoins, mais ça sera toujours le cas. Et ce soir, en plus de ça, il n'était pas prêt à faire cet exploit individuel, parce que je l'ai pas senti bien dans le rythme du match. Tu vois, même quand il perdait le ballon, il avait du mal à se replacer. C'était pas un bon Ben Arfa, mais bon, ça arrive. Mais ça, c'est sa carrière. Elle est comme ça. Et même dans les matchs, il va disparaître pendant 20 minutes. Même quand il est bien, il va disparaître pendant 20 minutes, une demi-heure, et après, il va te faire l'exploit individuel.
C'est dur pour une équipe d'être performante avec ce genre de joueur au final.
Et c'est pour ça que l'intelligence de Stéphane, ça a été de replacer Sarr vraiment sur le côté droit, de mettre Bourigeaud sur le côté gauche. C'est deux joueurs complètement différents, mais ça t'équilibre l'équipe quand même. Et cette équipe, elle se transforme souvent avec trois milieux de terrain et quasiment trois attaquants, même si Sarr fait l'effort côté droit, avec un Ben Arfa qui est libre. Et quand il est mieux, il fait plus d'efforts.
Si le reste de l'équipe est prêt à courir pour lui, s'il l'accepte, tant mieux pour lui.
Je pense qu'ils l'ont accepté.
Dans ce cas, ça pourra marcher un peu mieux.
De toute façon, il y a que dans cette formule-là. Ah, et aujourd'hui, vu l'état physique, il est quasiment impensable impossible de mettre Ben Arfa sur un côté comme il l'était à Nice, par exemple.
Impossible.
Ou là, par contre,
à Nice, il était même pas trop sur un côté.
Ouais,
il était plutôt.
Il partait souvent du côté droit.
Oui,
quand
il
même,
partait,
pour faire
mais
différence.
Au final.
Dans quelques instants, on parle de l'OM. Et puis, on évoquera aussi le reste de l'actu foot du jour avec le bordel total dans le calendrier de la Ligue 1 avec les reports de match. Ce sera dans quelques instants, bien sûr. Je rappelle que Rennes est qualifié en battant Astana 2-0. Marseille éliminé perd au Vélodrome Salima Sol 3-1. Et Bordeaux éliminé malgré sa victoire à Copenhague 1-0. À tout de suite dans l'after.
RMC Football Show. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jean Bretonnet, la Daniel Riolo également, messieurs, dames, l'Olympique de Marseille. Je vais vous proposer en préambule d'écouter Jacques-Henri Hérault, qui ne filme pas tout le temps JHE. Là, ce soir, il est venu. On l'écoute.
On a le droit de l'appeler comme ça, c'est nouveau,
ça. JHE ?
JHE. C'est toi qui l'as fait ce soir ? Non. Alors, ça n'avait pas été fait avant. C'est toi qui sors ça comme ça.
Ouais, bravo.
C'est comme NEK,
la série. Mais JMA, il y avait. Mais GHE, non.
Moi, c'est la première fois que je t'entends.
Ah, t'as le droit de le tenter, t'as le droit de le lancer.
Bah, c'est déjà fait, enfin.
Non.
Allez, vas-y.
Bon, bref. GHE, on l'écoute.
Ici, même à Marseille, quand on perd un match, mais qu'on a tout donné, et ça arrive, on peut le comprendre, c'est le sport. On gagne, on perd. Là, il y a eu des choses qui ne m'ont évidemment pas plu et il va falloir ne plus les voir d'ici la fin de la saison.
On vous sent très agacé.
Agacé, non, réaliste. Je crois que je suis responsable et j'analyse les situations et aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse à aller trouver. Oui, il y avait peut-être un pénalty qu'on peut discuter, mais tout ça ne rentre pas en ligne de compte ce soir pour moi. Ce soir pour moi, c'est l'immense déception. Les campagnes européennes se suivent, elles ne se ressemblent pas. Simplement, je crois qu'il y a du talent quand même dans cette équipe et moi je vais les soutenir et j'espère qu'avec moi, tous les supporters vont les soutenir en championnat où on est encore dans la course.
Alors, pour être complet, écoutez maintenant Adil Rami, à la sortie du match, instructif, on écoute.
Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je sais pas, il y a plus de solution à trouver, on sort de la compétition. Maintenant, il faut accepter, il faut écouter nos supporters, assumer les critiques, les chansons qui vont contre nous. Et c'est ça la vie du footballeur, il faut accepter. C'est important d'accepter, de faire face et de se faire insulter individuellement pour comprendre un petit peu notre moment un petit peu pénible, un petit peu catastrophique. Maintenant, la grande chance qu'on a, parce qu'à chaque fois je cherche à trouver des choses positives, mais la grande chance qu'on a, c'est que on n'est pas loin du podium en Ligue 1. Et après, comme bon rêveur je suis, j'espère faire une finale au moins de Coupe de la Ligue ou Coupe de France pour essayer d'effacer ça. Mais bon, ça va être très très compliqué.
Voilà, c'est Adil Rami Sadomaso qui dit.
Non, mais il a raison, son analyse elle est bonne.
Qui dit on accepte
il est prêt à assumer, non, mais il est prêt à assumer parce qu'il faut bien assumer. Et après, il a raison d'ajouter, parce que c'est vrai que je le dis souvent, le foot a ça aussi de fantastique, c'est qu'il t'offre d'être une semaine en catastrophe totale avec tout le monde et toute la terre qui t'en veut. Mais il y a tellement de compétitions, il y a tellement de moyens de rebondir que 6 mois plus tard, tu peux avoir gagné un trophée et tu peux être en train de faire la fête. Et oui, donc c'est possible que l'OM, qui a pas gagné de coupe depuis longtemps, se fasse une coupe de la Ligue, une coupe de France. Bon, ça fera peut-être un peu consolation. Mais s'il y a podium plus une coupe ou si bon, il y a matière à relever un peu la tête.
Mais Daniel,
si t'es joueur dans cette équipe-là, je pense que tu te dis la même chose.
Oui, sauf que tu peux pas raisonner comme ça sur la fin de saison et tirer déjà des bilans, du moins tirer un bilan qu'en fin de saison.
Je disais.
Non mais lui qui parle bien sûr des. Mais quand tu commences un championnat, c'est pour le gagner. Même quand tu t'appelles Dijon, quand tu commences une coupe, c'est pour essayer de la gagner, de faire un exploit. Tu sais que t'as des équipes qui sont plus fortes et qui sont plus à même de gagner ces compétitions-là. En l'occurrence, le Paris Saint-Germain qui gagne tout depuis pas mal d'années. Donc, quand tu t'appelles Marseille, oui, t'avais envie d'espérer. Mais je pense qu'ils avaient envie d'espérer en Europa League. Malgré tout, ils prennent une grosse claque. Là, avec en marquant un seul point, c'est ce que je te disais pendant le match de Bordeaux, Gilbert. Moi, quand je vois l'Olympique de Marseille ces derniers temps, moi, je veux bien, mais les doux rêveurs, au bout d'un moment, ça suffit. Ça fait 10 matchs que l'Olympique de Marseille, les 10 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, toutes compétitions confondues, c'est 7 défaites, Daniel.
Bah, un match nul, 2 victoires. 22 matchs, 11 défaites.
Les victoires, c'est à Amiens. Qui est en grande difficulté en championnat. Et c'est contre Dijon à domicile, tiré par les cheveux. Donc si avec ce bilan-là sur les 10 matchs, tu me dis bah oui mais il y a encore des objectifs, on n'est pas loin en championnat. Mais en championnat ils sont sauvés parce que le championnat il est faible, franchement cette année plus que d'habitude, que les équipes qui sont en haut du tableau, tu te dis bah Lille vont peut-être pas rester là par rapport aux dernières prestations, tu te dis Lyon. Ils perdent beaucoup de points, ils sont irréguliers, que ça soit en Ligue des Champions, même s'ils sont qualifiés, mais en championnat, bah, ils sont capables de perdre contre n'importe qui. Donc tu te dis, Marseille, bah oui, en effet, ils sont cinquièmes, ils sont pas largués, mais ils sont cinquièmes, ils ont 26 points en 16 journées. Mais c'est un scandale.
Non, ils sont vraiment
c'est
pas
un scandale.
Ce soir, nous, on le sait pas, mais dans l'équipe de Limassol, il y a 6 titulaires qui étaient restés à la maison.
En plus, non mais.
Je sais pas si tu mesures le truc.
Non mais.
Alors que l'OM a mis une équipe quasi type.
Bah oui, mais
bien sûr.
Nous, évidemment, l'Apollon machin, on les connaît pas. Mais je le répète, 6 titulaires ne jouaient
mais
pas.
C'est le plus.
C'est ouf.
Non, mais je suis d'accord. Déjà pour parler de l'adversaire, qui est un scandale terrible de et c'est honteux. Et même les joueurs de l'Olympique de Marseille, quand ils rentrent chez eux, Adil Rami y parle. Mais je peux te dire que là, t'as qu'une envie, c'est te mettre.
D'ailleurs,
sous terre.
Tu sais que l'Apollon Limassol, et je le déplore, n'a pas fait jouer son titulaire indiscutable Sardinero.
Exactement.
Et n'a pas fait jouer Sardinero à Marseille.
À Marseille, c'est quand même un scandale.
C'est une faute de goût incroyable.
Ouais. Mais en étant plus sérieux, ce que je veux dire, c'est que Marseille, quand t'es joueur, Daniel, ce genre de match, surtout quand la série que je viens de te dire.
Sardinero existe vraiment, hein, parce qu'on me dit, il n'existe pas ce joueur. Je vous dis qu'il y a un joueur de l'Apollon Limassol.
C'est vrai, on l'avait dit au match aller. Mais quand t'es joueur de l'Olympique de Marseille, bien sûr que ce match est un match cacahuète, il sert à rien. T'étais éliminé.
Il sert à rien pour Limassol.
Mais
plus,
sauf, oui, exactement. Mais sauf
qu'il a d'ailleurs gagné son premier match à l'extérieur de son histoire, je crois.
Oui.
Quand tu joues à domicile.
D'ailleurs, il y a du chambrage sur, on me dit, Limassol, premier match à l'extérieur, victoire, hashtag, à jamais les premiers.
Ah merde.
C'est pour chambrer les
Marseillais. Bon, si je peux finir.
Oui, rapidos, parce qu'il y a Sofiane.
Bah, rapidos, tu m'écoutes pas. Ce que je veux dire, parce quand tu es joueur de l'Olympique de Marseille. Mais non, je fais long parce
plus
que.
Plus tu fais long, moi, on t'écoute. C'est une règle de base. Quand on fait long, bah, on décroche.
Bah oui, c'est sûr. Bah, je fais long parce que vous n'arrêtez pas de me couper, surtout toi. D'habitude, c'est Daniel, mais pour l'instant, il dit rien. Et non, mais quand tu es joueur, que tu joues ce match-là, le discours des joueurs leaders, du capitaine, de l'entraîneur, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que là, les mecs, ils sont motivés. La preuve, c'est qu'il met quasiment son équipe type sur le terrain. Il met des joueurs qui sont pas à leur poste. Camara, il va le tuer à force. Il a tué à ma vie en le retirant. Il tue Camara aussi. Et qu'à l'arrivée, il te dit, ben moi, je fais des choix pour améliorer l'équipe. Mais je peux te dire que par rapport à l'état d'esprit des joueurs avant le coup et ce qu'ils ont montré sur le terrain, je pense que le problème est plus profond que ça. C'est plus des carences individuelles. C'est que je mets en cause, moi, le discours et ce que met Garcia dans la semaine aux entraînements, comment il arrive à motiver ses troupes, et je pense
là,
que
y a un réel problème.
L'équipe, elle ne progresse plus, elle est en régression, et oui. Ça, c'est plus inquiétant.
Là, il y a un vrai problème avec Garcia, on le voit, lui, de toute façon, il est en train de perdre les pédales complets au niveau de sa com, mais ça fait des semaines que je le répète. L'OM est pas en train de se préparer des très bons jours, on sait qu'en interne, il y a de plus en plus de tensions. Donc bon, on va suivre les prochaines semaines. Là, le truc, c'est qu'il y a plus de matchs. Quasi d'ici Noël, je sais même pas s'il y aura le match de clôture de la première partie de saison la semaine prochaine. Là, bon, voilà. En tout cas, Marseille ce week-end ne jouera pas. Il jouera le week-end prochain.
Il va falloir qu'il soit très bon sur le mercato d'hiver. Hein.
Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent prendre sur le mercato d'hiver? Mercato d'hiver, tu prends que des joueurs qui jouent nulle part. Marseille a pas besoin en remplaçant d'un autre club. Ils ont besoin d'être de bons joueurs là.
Ben oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vu que t'as tué et comme tu dis, la gestion de Garcia fait qu'aujourd'hui il y a des joueurs, tu les as tués. Les attaquants, tu les as tués. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il est obligé de te mettre au Campos, qui en plus a pris un carton rouge et qui a pas fait un grand match. Donc lui aussi, tu vas le tuer devant. Donc qui tu vas mettre?
Tiens, Sofiane est là au 32-16. Salut Sofiane.
Salut, bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et bonsoir Jérôme.
Salut Sofiane.
Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir sur l'OM, toi?
Alors déjà, je remercie Jérôme parce qu'il a replacé un peu tout ça en perspective sur les derniers matchs. Bah moi, à la sortie de ce match, j'ai envie de vous dire, Rudy Garcia, stop ou encore. Et je vais un petit peu développer dans le sens où moi, je trouve qu'il y a un parallèle qui est saisissant entre la période actuelle de l'OM depuis le début de la saison et la troisième saison, là, c'est-à-dire la dernière saison de Rudy Garcia à la Roma, où en fait, auréolé par sa deuxième place avec Rome et le fait qu'il ait lutté avec la Juventus pour le titre, il a fait le mercato à Rome, il a ramené Mapu, Yangambiwa et William Vainqueur. C'est un peu ce qui s'est passé cet été, où auréolé par sa finale de Ligue Europa, il a fait le mercato, il a fait un peu ce qu'il a voulu. Et ce qu'on voit, c'est exactement la même chose qu'à la Roma la troisième saison, une équipe sans âme. Une équipe qui, quand il y a un tout petit peu d'adversité en face, à l'époque c'était le Chievo Vérole, mais l'Atalanta, ces équipes-là, ça gagne pas et on sent une équipe totalement liquéfiée. C'est exactement ce qu'on a avec l'OM cette année, où dès qu'on a un adversaire qui n'est pas personne, l'équipe se liquéfie totalement. Donc moi je pense que la meilleure des choses qui pouvait arriver à l'OM, c'est qu'on n'a pas joué Saint-Etienne et Bordeaux, parce qu'à mon avis, dans la séquence actuelle, c'était deux matchs perdus. Et moi je pense que là, faut clairement se poser la question. Faut faire sauter un fusible. Et pour moi, c'est Garcia. Je remets pas en cause les compétences de Garcia, qui pour moi est un bon entraîneur, mais sans plus, c'est un bon entraîneur. Ça s'arrête là, mais dans la durée, ça le fait pas. Et aujourd'hui, troisième saison à l'OM, son discours, on voit qu'il passe plus. Et c'est exactement, je reprenais les matchs de l'époque, exactement le même cas de figure qu'à la Roma, quand il s'est fait virer.
Non, mais c'est vrai que c'est important que tu dis ça, parce que moi, je suivais le championnat italien à ce moment-là.
Exactement.
Et c'est vrai que c'est le même ressenti que j'ai quand je vois Marseille. Marseille, l'année dernière. Alors, pas flamboyante, mais au moins, il y avait une âme dans cette équipe.
Il y avait l'état d'esprit. C'était très important.
Et oui. Et il l'a mis en avant. Et là, cet état d'esprit, il existe plus.
Tu peux pas faire deux saisons qu'avec ça. C'est toujours une limite, je le dis souvent.
Sofiane, merci pour ton message. Donc Garcia, malheureusement, on n'a pas le temps d'aller plus loin.
Je suis désolé, mais ça tombe. Hein. Évidemment, sur les poules, t'es encore passé à côté.
Ah bon, pourquoi, c'est quoi l'histoire? Ah,
parce que Hussein, qui lui est toujours béton, il les a, les 15 adversaires potentiels de Rennes, lui.
Ah bah il est fort, bah ouais, moi j'ai pas que ça à foutre, j'ai une émission à gérer.
Je les cite super vite.
Vas-y.
Chelsea, vite. Arsenal, Naples, Inter, Séville, Valence, Villarreal, Betis, Leverkusen, Francfort, Benfica, Salzbourg, Genk, Zagreb et Zenit.
Bon, bah, faut qu'ils prennent Zagreb.
Voilà.
Ça, là, c'est... il a calculé les têtes de série. Bravo, Hussein.
Ça, c'est les 15 adversaires potentiels. Ouais. Et en aucun cas, ça ne peut être, comme tu l'as dit, Rapid de Vienne.
Mais ça, on le savait d'entrée. Rapid de Vienne. Et il en a cité que deux.
Il a pris deux au hasard.
Ouais, au hasard.
Mais au hasard, il s'est mis dedans.
Deux faux. Ah, t'es bon, toi.
T'as cité deux têtes au hasard et c'était les plus, c'est de ceux qu'il fallait pas.
Non, mais t'aurais dû en prendre d'autres. Qu'est-ce qu'il te dit, Hussein? Il a les bonnes têtes de série.
Mais parce que la vérité, Hussein, franchement, sur les poules, à chaque fois, il est béton.
Mais ouais.
Bon, on n'a pas le temps de parler du bordel du calendrier. On le fera demain. Alors, en tout cas, demain, pas de match de Ligue 1, demain soir sur RMC. Mais il y aura par contre la demi-finale de l'Euro de Hand. Eh ouais, France-Pays-Bas.
Ah bah oui,
demain soir à 21h. Le grand jeu de Noël.
Et dimanche soir, match qui a été déplacé, Lyon-Monaco.
Exactement. Salut Alex.
Salut les gars.
Salut Alex, qui a été tiré au sort. J'ai la boîte. C'est Jérôme qui va t'offrir ton cadeau. On va voir s'il est généreux. Attention, il a l'enveloppe dans les mains. Jérôme, quel est le cadeau d'Alex?
Je pense qu'il y a du lourd aujourd'hui.
Tu penses?
Ah, j'espère.
C'est un skateboard électrique.
Ben voilà, mon petit Alex.
Super. Merci, les gars.
Un skateboard électrique pour Noël, c'est cadeau. Joyeux Noël.
Ouais, merci.
Joyeux Noël.
Salut, à bientôt. Merci, salut, Alex. Le grand jeu de Noël qui revient demain soir dans l'after. Deux, trois petites infos, j'ai le temps. Vous dire que Giresse a été nommé sélectionnant de la Tunisie.
C'était Roland ou Giresse.
Bah, finalement, voilà. C'est Giresse. Et puis un mot sur Sampaoli, nouvel entraîneur de Santos. Roland. Il rebondit. Et puis la CAN, on sait toujours pas où elle va se jouer. L'Égypte aujourd'hui est officiellement candidate pour accueillir la CAN au mois de juin prochain. C'est fini pour ce soir. Demain soir, l'after sera là dès la fin du handball, aux alentours de 22h15, 22h20.
C'est qui les consultants handball demain?
Bah, je crois que Pierre Ducrot,
Jonathan Macardy.
Le vendredi, c'est Ludo Bragnac et Jonathan Macardy.
C'est lui qui est dans l'after demain soir.
Bah, ils sont pas mal.
Demain soir dans l'after, Damien Périnel.
Ah!
Eh ouais, il est là demain. Le
donc
petit
pas
Damien.
Ludo alors.
Non, Ludo n'est pas là, il s'est fait porter pas.
Bravo Damien.
Bravo Damien.
Ah, bah,
le spécialiste de Hand.
C'est dans l'after.
Mais il va être bien. Ils vont être bien. Au moins, Jonathan va être bien. Allez, bon week-end.
Bon week-end.
RMC Football Show, l'after foot.